Mais que font tous ces gens? Que font tous ces gens? Il est minuit à New York, à Central Park, et un Pokémon rare vient d'apparaître. Alors il s'agit de ne pas le rater, il s'agit d'aller le chercher. Et donc le cours d'aujourd'hui va commencer sur Pokémon Go. Et vous allez voir qu'au travers de Pokémon Go, on a beaucoup de choses à dire en culture numérique. Hein, bon, d'abord le fait que ce soit un jeu, la place du jeu à l'intérieur de la culture numérique est quand même quelque chose de très très important. Les jeux vidéo en ligne, et puis là, quelque chose de nouveau, c'est des jeux en réalité augmentée. Donc on va essayer de voir un peu qu'est-ce que représente cette réalité augmentée. Deuxième aspect, c'est le succès fulgurant, ce qu'en langage Internet, on appelle le buzz. Hein, donc d'un seul coup, on a un burst out, une explosion autour d'un thème, d'un sujet, d'un logiciel, d'un hashtag, de choses qui d'un seul coup focalisent toute l'attention des gens et font monter en épingle un sujet. On va voir aussi que Pokémon Go, c'est l'enjeu de batailles économiques, hein, de batailles économiques importantes, car ça a des conséquences économiques, à la fois sur les entreprises qui fabriquent ce jeu, mais aussi plus généralement sur des rapports économiques mondiaux, parce que derrière, il y a la question de la cartographie. Hein, vous avez vu que Pokémon Go, les Pokémon sont sur des cartes. Et donc cet enjeu de la bataille de la cartographie est un enjeu économique absolument essentiel. On va voir que ça touche des questions de vie privée et de propriété. Sur Internet, dès qu'on fait quelque chose, on touche en réalité à des questions de vie privée et de propriété. Donc on va le retrouver encore ici. Et enfin, on va terminer autour d'un quelque chose qui a traversé l'histoire de la cartographie, l'histoire des géographes, c'est de quelle manière, qu'est-ce qu'une carte, quelle est la différence entre la carte et le territoire, et comment en fait l'écosystème numérique nous donne quelque chose de plus dans cette logique de la relation entre la carte et le territoire. Tout ça à propos de Pokémon Go, qui est quand même quelque chose qui a commencé comme un poisson d'avril. C'était le 1er avril 2014.
At Google, we seek to hire the most exceptional people. Today, we're announcing a new job role and challenge. Pokémon Master. Pokémon Masters are the world's greatest digital explorers, and their passion for exploring will take our maps to the next dimension.
It's always been important to us to have the most qualified employees at Google. Now, using the technology created by the Google Maps team, we've prepared the most rigorous test known to man to find the world's best Pokémon Master.
Applicants must explore all types of terrain with Google Maps on their iPhone or Android to find each and every one of the wild Pokémon.
Strong-willed applicants who collect every single Pokémon will be invited to the Googleplex to participate in the final round of hiring. The winner will start at Google on September 1st, 2014. We're eagerly awaiting your participation.
After updating, open the app, tap Search and press Start to begin locating the many Pokémon hidden throughout the map.
Side effects of the Pokemon Challenge may include extreme excitement and a sense of accomplishment. Do not operate the Pokemon Challenge in Google Maps while driving or operating heavy machinery. Our hiring committee must first battle to determine who can best judge the Pokemon Master. The battle date has yet to be set, so the role of Pokemon Master is not yet available. Visit www.google.com/jobs for a list of open roles.
Donc voilà, donc c'est une blague de 1er avril qui va devenir très sérieuse, où il s'agit d'attraper des Pokémon en utilisant la carte. Vous avez toute l'équipe de la carte Google Maps qui vient, qui présente et qui dit « Chez nous, à Google Maps, nous voulons que la carte serve à tout, qu'elle soit augmentée. » Donc on a déjà l'idée de réalité augmentée. On voit apparaître aussi un concours Pokémon Master, qui est ouvert le 1er avril 2014, mais qui va fermer, vous avez vu, le 2 avril 2014. Donc on est bien dans l'ordre d'un poisson d'avril, comme il y en a très régulièrement sur Internet. Chaque entreprise se bat pour le 1er avril avoir un véritable gag. Bon, cependant, nous avons John Hanke, qui est dans la société Niantic. Alors Niantic, c'est une société qui est dans le groupe Google. C'est une société interne à Google qui a été créée en 2010 par John Hanke, qui est celui qui a fait Google Earth. Vous savez, cette manière de voyager sur la Terre en regardant des photos, des immeubles, en ayant l'impression de pouvoir survoler l'ensemble de l'espace. C'est lui aussi qui a été responsable de beaucoup de choses en cartographie chez Google, qui est quand même, reconnaissons-le, est un immense acteur de la cartographie numérique. Donc lui, il s'est dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire avec cette idée vraiment de mettre de la réalité augmentée, c'est-à-dire d'avoir des jeux vidéo. L'objectif de Niantic, c'est de faire des jeux vidéo qui soient à la fois dans le monde réel, qui permettent aux gens de se rencontrer réellement et qui, pour autant, restent des jeux vidéo. C'est-à-dire on ne va plus aller se promener dans un espace virtuel, comme dans World of Warcraft, mais on va au contraire se promener dans le monde réel qui va être augmenté par la présence du jeu. Alors, ils avaient fait un premier jeu, à ce moment-là, qui s'appelait Ingress, qui leur a permis de relever, comme ça, partout dans le monde, des points d'intérêt, des choses sur la carte qui sont des lieux un peu significatifs. Et donc, on va redoubler la mise en utilisant cette base de données. Cartographie, c'est toujours une base de données, hein. Donc, c'est des données sur des points géographiques, sur des coordonnées géographiques. Donc, on va utiliser cette base de données pour faire un jeu plus fun, hein, donc Pokémon Go. Voilà. Dans ce cadre-là, il y a un an, Google s'est réorganisé. Google est devenu Alphabet, c'est-à-dire une holding qui a plusieurs activités. Il y a l'activité moteur de recherche, il y a l'activité d'aller dans l'espace ou de faire des projets complètement fous qu'on appelle des moonshots, des coups de pied dans la Lune. Et puis, il y a Niantic, puis il y a aussi les Thermostat Nest, qui sont devenues deux sociétés indépendantes parce que Google pressentait qu'elles allaient pouvoir, et on va voir tout à l'heure que c'était une bonne idée, qu'elles allaient pouvoir vivre par elles-mêmes, qu'elles n'avaient plus besoin en fait du chapeau Google, Google étant juste dedans un investisseur. Donc dans Alphabet, il y a cette société Niantic qui propose en secret, qui prépare en secret par une alliance avec Nintendo, ce Pokémon Go qui sortira une année plus tard. Alors quel est le modèle économique de Pokémon Go? Ben, en fait, d'abord, ça rapporte beaucoup. Ça a rapporté 1,6 milliard de dollars par jour à Niantic. 1,6 milliard de dollars par jour. Bien sûr, il y a eu des dépenses. Les dépenses, c'est d'augmenter la taille des serveurs disponibles pour que tous ces gens n'aient pas à attendre trop longtemps avant d'avoir la localisation des Pokémon et l'accès à la carte, à la Google Maps. Ça a été le jeu le plus téléchargé, 130 millions de téléchargements sur mobile dans le premier mois. 130 millions le premier mois. Donc vous voyez que le nombre de personnes qui va se servir de ce jeu, on est dans ce phénomène de buzz, de concentration à un moment donné où tout le monde ne parle que de ça. D'ailleurs, on n'en parle plus, à part dans les cours. Mais on est là un mois et demi après, on n'en parle plus, alors que c'était à la une de tous les journaux il y a un mois et demi. Alors comment une telle entreprise peut vivre, hein, avec autant de clients, donc autant d'investissements? Ben d'abord parce que les investissements en serveurs, c'est Google. Et Google a fait toute sa force, toute sa grande force, en fait, est venue de son investissement en serveur, mais dès 1999, c'est-à-dire dès sa création. À cette époque-là, Google crée ses premiers data centers, ces endroits où il y a les données, et Larry Page arrive dedans et puis il dit « Mais attends, à quoi ça sert d'avoir un bouton marche-arrêt ? On va enlever le bouton marche-arrêt, de toute façon, personne ne veut jamais arrêter un serveur. À quoi ça sert ?» Il a fini par diminuer la taille de ses serveurs pour avoir le strict minimum qui était d'être des serveurs informatiques. Ça lui a donné une puissance de calcul très largement supérieure à ses concurrents de l'époque, qui lui permettait de répondre beaucoup plus vite. On est en 99, hein, ce n'était pas aussi rapide que maintenant, mais ça lui permettait de répondre beaucoup plus vite. Et Google a sans arrêt continué sur cette lancée. Les serveurs doivent être de plus en plus puissants, consommer de moins en moins d'énergie, être de plus en plus nombreux, répartis sur toute la planète, pour être, à chaque fois que c'est possible, au plus près de l'utilisateur. Donc Google a un cloud, un immense réseau, un immense nuage de serveurs, qui est élastique, c'est-à-dire qu'on peut, s'il y a beaucoup de demandes, eh bien on va utiliser des serveurs, s'il y en a moins, on va les mettre au repos pour ne pas consommer d'énergie. Donc, de ce point de vue-là, il y a une capacité à augmenter en fait, la puissance nécessaire pour faire un tel jeu. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas forcément égalité. Vous êtes une petite start-up aujourd'hui, si vous avez le succès peut vous tuer. Règle de base de l'Internet, ça s'appelle l'effet slashdot. L'effet slashdot, c'est qu'à un moment donné, une start-up des années 90, ça doit être en 96 ou 97, une start-up a du succès, on parle d'elle dans le New York Times, il y a plein de gens qui viennent dessus et donc le serveur s'écroule et plus rien ne marche. Voilà, c'est cet effet-là. Aujourd'hui, cet effet-là, il existe de moins en moins parce qu'on a le cloud, mais il existe d'un point de vue financier, c'est-à-dire s'il y a trop de monde qui viennent sur un serveur, l'entreprise est obligée d'acheter de plus en plus de cloud et donc elle va avoir des difficultés économiques parce qu'il va lui falloir investir au jour le jour, alors même que, comme vous le savez, ce n'est pas rentable le premier jour. Les opérations numériques sont rentables au bout d'un certain temps, mais rarement le premier jour. Quand on est Google, quand on est Amazon, quand on est Apple, on a déjà cet accès au cloud. Donc, on gère en fait en interne cette élasticité économique qui rend une supériorité économique, là aussi, à une distorsion de concurrence, hein, dont on, à mon avis, on ne mesure pas encore qu'il y a des gens qui se penchent là-dessus sérieusement, mais tous les effets sur l'innovation, en fait. Alors après, comment ça ne rapporte pas le premier jour, mais enfin, ça va finir par rapporter, d'ailleurs, ça rapporte, aujourd'hui, Pokémon Go. Quelles sont les deux méthodes? La première, c'est l'achat d'objets virtuels. Alors, ce n'est pas le premier à inventer ça, hein, c'est tous les produits magiques qu'on peut acheter dans World of Warcraft ou dans League of Legends servent effectivement de la même manière. On achète des objets qui nous permettent de franchir des étapes dans le jeu, c'est ce qu'on appelle la gamification. C'est un aspect très addictif. Hein. Les revenus de Candy Crush ont été principalement obtenus par ceux qui voulaient franchir des niveaux et qui préféraient acheter en fait des niveaux supplémentaires plutôt que de se répéter, de s'entraîner, etc. D'autant qu'au bout d'un certain temps, il fallait attendre pour passer à des niveaux supplémentaires. Donc on a un phénomène comme ça d'addiction au jeu qui est quelque chose de très important. Hein, c'est la même logique qui fait fonctionner les casinos. Donc on achète des objets qui nous permettent de jouer, en l'occurrence des Pokéballs, donc avec une monnaie interne, les Pokécoins, qu'on a auparavant échangés. Donc on a acheté des Pokécoins qui vont nous servir ensuite, au fur et à mesure, à acheter des Pokéballs. Voilà. Donc on a un achat d'objets virtuels. On compte qu'en moyenne, 5% des joueurs d'un jeu sont des acheteurs de ces objets virtuels. Pour une moyenne, là aussi, elle n'est pas spécifique à Pokémon Go, mais on compte qu'en moyenne, c'est $10 par joueur, par mois. Donc les vrais joueurs dépenseraient dans les $10 par mois, mais 5% d'entre eux seulement. Le deuxième source de revenus, c'est avoir une arène Pokémon ou avoir un Pokéstop chez soi et donc faire venir des gens chez soi. Donc on est toujours dans ce que je vous expliquais dans le premier cours, la logique de l'économie de l'attention. Et donc je vais payer à Niantic pour qu'il y ait une arène ou un Pokéstop à l'intérieur de ma bibliothèque, mon magasin, ma galerie marchande, ma rue, ma mairie, enfin bon, selon l'intérêt de chacun, disposer d'un endroit qui va attirer les gens en espérant qu'ils sont venus pour ça et qu'ils vont repartir pour autre chose. La règle de base de l'attention, c'est je les ai fait venir à l'intérieur de ma boutique, ils vont en profiter pour acheter chez moi et repartir ensuite. Voilà. Et puis enfin, la troisième source de revenus, c'est les données privées. Donc vous avez quelque chose qui sait où vous êtes à tout moment. Donc traçage GPS. Donc là, on a une vraie question de données privées parce que l'endroit où on est physiquement est quand même une incitation à vous indiquer, vous faire du push en disant « Ah, vous n'êtes pas loin d'un magasin qui fait des soldes. » Et puis comme en plus je vous connais, c'est un magasin qui ressemble beaucoup à ce que vous êtes, à ce que vous faites, à ce que vous aimez. Et donc venez chez nous, je vous fais une solde spéciale supplémentaire de 5%. Voilà. Donc on est dans une logique comme ça de suivi à la trace géographique. Mais en même temps, le jeu Pokémon Go a accès à plein d'autres. Il a accès à des carnets contacts, il peut lire les mails de Google, enfin... Il a accès à l'appareil photo, donc à l'ensemble des photos qu'on a déjà prises. Alors, vous voyez, c'est quand même un outil relativement intrusif par rapport à notre vie privée. Que deviennent ces données ? Que deviennent ces données qui sont captées ? Alors ça, c'est intéressant, c'est que ces données captées, là, c'est des extraits de la politique de confidentialité. Il y a eu une de mes collègues, Nathalie Devilliers, qui est à l'école de management de Grenoble, qui est allée lire en détail, parce que personne ne va lire en détail les 150 pages d'une politique de confidentialité qu'il y a sur n'importe quel jeu. J'imagine que vous n'êtes jamais allé lire. Et de toute façon, quand on va lire, on a deux choix. Le premier, c'est de n'y rien comprendre parce que c'est du langage juridique. C'est d'être noyé dans des détails dont le sens nous échappe. Et le deuxième, c'est de dire « Oh là là, je refuse, mais dans ce cas, on ne peut pas utiliser le produit. » Donc, dans tous les cas, on laisse tomber, on est d'emblée victime de la complexité de ces politiques de sécurité, ou qu'on appelle « conditions générales d'utilisation », enfin, il y a plusieurs mots. Ce qui a amené, par exemple, la Californie à réfléchir et à faire une proposition de loi qui n'est pas encore devenue une loi, enfin, ce n'est pas achevé, mais la démarche était, il faut être capable de présenter votre politique confidentielle en moins de 100 mots. Moins de 100 mots, c'est-à-dire quelque chose qui soit lisible par le citoyen ordinaire, qui comprenne les enjeux en quelques mots. Après, vous pouvez faire un vrai texte juridique avec certifié par tous les avocats du monde pour pouvoir ne jamais avoir de problème dans les procès, puisqu'il y a des caractères, ce qu'on appelle en petits caractères. Donc, dans cette politique de confidentialité que ma collègue a lue, on apprend que les informations que nous collectons auprès de nos utilisateurs, y compris les données à caractère personnel, sont considérées comme des actifs de l'entreprise. Alors ça, c'est intéressant. Vos données personnelles deviennent, parce qu'elles sont captées par Niantic, des actifs de l'entreprise. Ça veut dire que ça rentre dans leur capital. Ça n'est plus la valeur de cette entreprise ne va plus se juger au nombre d'usines, au nombre de chaînes, au nombre de machines-outils qu'elle a, mais bien strictement au nombre de données personnelles qu'elle a pu engranger, de la captation de clientèle aussi. Deuxième aspect, c'est vous-même comme personne ayant pris un engagement en fait en jouant avec le jeu de cette entreprise, vous êtes une clientèle de cette entreprise qu'elle va pouvoir vendre ailleurs, parce que vous n'êtes pas vraiment le client, en fait. Vous êtes dans dans le capital de l'entreprise, c'est-à-dire dans son actif, parce qu'elle va le vendre à un client. Ce qui est l'autre partie, c'est si jamais nous nous vendons à un tiers, qui va donc nous donner beaucoup d'argent, vos données personnelles étant un actif de l'entreprise vont passer chez ce tiers. Et ce tiers lui-même... vous allez pouvoir vous en retirer parce que vous n'avez pas signé avec lui, vous avez signé avec Niantic. Mais vous allez devoir faire mention vous-même de l'opt-out, c'est-à-dire vous dire « je veux faire un effort pour que mes données n'aillent pas à cette nouvelle entreprise ». Ce que, bien évidemment, personne ne fait jamais. Donc on s'aperçoit qu'en fait, les données servent dans l'entreprise comme un actif, c'est-à-dire comme quelque chose qui est vendable sur l'autre marché de l'entreprise, c'est-à-dire pas le marché avec ses usagers, mais le marché financier, le marché de la valeur des actions de l'entreprise. Là, vous avez un exemple. Alors, Niantic elle-même n'est pas cotée en bourse. Donc, on estime cependant que sa valorisation fait 3,5 milliards de dollars. C'est une toute petite entreprise. Hein. C'est une très grosse valorisation pour une toute petite entreprise qui n'a pas grand-chose, qui a juste quelques individus, beaucoup de feeling et d'intelligence, mais bon, pas vraiment de capital social, sauf que, vous avez vu, 130 millions de téléchargements. Donc, son actif, lui-même, est très important. Là, c'est la cour de la bourse de Nintendo, avec ce pic au milieu de juillet qui correspond à l'achat, au lancement de Pokémon Go, et puis la chute juste après parce que les investisseurs, c'est moutonnier, vous savez, ils entendent parler Pokémon, tant que j'achète, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, Nintendo avait très peu de parts à l'intérieur de Niantic, ils ont 20%, et puis que de toute façon, Pokémon lui-même, Nintendo n'a pas la totalité des droits sur Pokémon. Alors donc, il y a chute. Mais en même temps, après, les gens se reprennent en disant « Mais oui, mais les actifs qu'on a pu récupérer, vu le succès, restent présents, et donc ils vont renforcer la valeur de l'entreprise Nintendo. » Donc voilà. Donc en fait, on s'aperçoit, et là, on a au travers de cet exemple-là, une méthode de fonctionnement de l'économie de l'Internet, qui est j'investis pour capter de la clientèle, pour capter des gens qui vont être dans mon réseau, mon jeu, mon logiciel, ma boutique en ligne, etc. Et c'est ça qui me donne de la valeur sur la bourse. Et donc, en fait, la part des ventes réelles, c'est-à-dire celle dont j'ai parlé avant, l'achat de Pokéball et puis le financement par les gens qui veulent avoir des arènes ou des Pokéstops chez eux, tout ça, c'est peanuts par rapport à la réalité du marché boursier, de la valeur boursière de l'entreprise. Et cette valeur boursière, elle est fonction du nombre de personnes captées dans les raies et puis aussi de l'image de marque. Et donc, quand on a parlé tous les jours de Pokémon Go, l'action de Nintendo est partie en flèche. Vous voyez, on peut, à partir de Pokémon Go, aborder les questions économiques de l'Internet. Après, c'est un jeu de réalité augmentée. Donc, c'est une nouvelle relation entre le réel et le virtuel. Et qui de mieux que William Gibson, celui qui a créé le terme de cyberespace, on en parlera la semaine prochaine, quand on parlera de l'histoire de l'Internet, je présenterai un peu plus, mais qui mieux que lui ne pouvait avoir une réflexion. Donc là, c'est un tweet qu'il a publié cet été. Il dit, attends, si ça fait lever des tas de gens pour les faire marcher et sortir la nuit, c'est qu'il doit bien y avoir quelque chose derrière. C'est une force derrière cette idée de réalité augmentée qui est quand même des choses qu'il a traitées en permanence dans l'ensemble, cette réalité augmentée, dans l'ensemble de ses romans. Voilà. Après, il y a eu des études, il y a des gens, là, c'est un texte d'un chercheur de Tom Phillips de l'Université d'East Anglia, aux États-Unis, qui nous dit, mais ça nous a permis de redécouvrir la ville. Alors là, tout de suite, c'est les agences de touristes, les choses comme ça, qui s'intéressent à l'idée qu'en réalité augmentée, on va s'apercevoir de choses devant lesquelles on pouvait même passer tous les jours sans jamais avoir mesuré à quel point c'était, il se passait là quelque chose, il y avait un signe, un détail, quelque chose qu'on n'avait pas vu et qui va être mis en valeur par la présence de Pokémon ou de Pokéstop, etc. Donc voilà, donc on est dans cette situation où on est capable de redécouvrir le monde réel, de se rencontrer. Hein, de se rencontrer. Alors ça ouvre ça des perspectives dans plein de secteurs. Bon, bien évidemment, le secteur du tourisme, l'idée d'une réalité augmentée. Alors, je vais devant des ruines et en fait, je vais pouvoir voir comment elles sont reconstruites. Je vais faire reconstruire à l'espace réel, à l'endroit réel où je suis, des ruines. Mais c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de l'architecture. Comment, en fait, je vais pouvoir m'imaginer quelque chose qui est bien présent à l'endroit où je suis. Qu'est-ce que ça va devenir demain? C'est l'aménagement intérieur. Comment je change mon aménagement en y mettant des meubles et des choses comme ça. Donc, vous voyez, on a là, j'ai même connu des coiffeurs qui vous prenaient en photo et qui vous changeaient la coiffure pour vous faire décider de ce que vous alliez faire. Donc, vous voyez, cette idée de ce mélange, cette hybridation entre le réel et le virtuel est quelque chose qui est porteur de toute une série d'activités à la fois économiques, mais aussi culturelles d'avenir. C'est-à-dire, comment on va imaginer cette hybridation? Comment est-ce qu'on va vivre, nous, dans un monde où il y a toute une partie qui est virtuelle et toute une partie qui est réelle, cette notion d'écosystème, de double écosystème dont j'ai parlé et dont je reparlerai. Alors, l'autre aspect du Pokémon Go, c'est des questions de propriété. On est dans le monde réel, donc il y a des espaces géographiques, des espaces sur lesquels on peut mettre les pieds. Les espaces sur lesquels on peut mettre les pieds, au moins dans nos pays, la plupart du temps, il y a un propriétaire. Quand il n'y a pas un propriétaire, il y a un gestionnaire, par exemple le maire d'une commune, qui peut dire « Oh là là, chez moi, pas de Pokémon. Je voudrais interdire, parce que je suis le maire, les Pokémon dans ma commune, à Bressols, dans l'Allier. » Ah, c'est compliqué, puisque ça n'existe pas. C'est un objet virtuel. C'est juste une information qui est mise sur un point géographique, sur une carte. On a une coordonnée géographique, et à cet endroit-là, il y a un Pokémon. C'est Niantic qui le dit. Est-ce que la propriété est la bonne raison pour pouvoir autoriser ou interdire? Alors, il y a une autre règle qui peut, elle, s'appliquer, c'est le trouble à l'ordre public. Vous avez vu tout à l'heure tous ces gens massés à minuit à New York pour aller chercher un Pokémon rare. Effectivement, il peut y avoir des troubles à l'ordre public, surtout chez nous où nous vivons sous l'ordre de l'état d'urgence. Donc, de ce point de vue-là, il y a une règle, mais qui ne tient pas à la règle de propriété. La deuxième chose, les propriétés dans les jeux virtuels, dans le virtuel, c'est qui est propriétaire des objets virtuels qu'on achète. Est-ce qu'on peut revendre une gourde de potions magiques qu'on a achetée dans World of Warcraft? Est-ce qu'on peut revendre un terrain qu'on aura acheté en Linden Dollar sur Second Life? Vous voyez, c'est quand même des questions importantes, parce qu'on n'a rien, et on va essayer de le vendre quand même. Donc, quel est le marché qui va accepter? Et donc, derrière, quelle est la fabrication de monnaie que ça représente d'avoir un marché qui accepte des biens qui n'existent pas, qui ne sont pas transférables en plus? Un terrain de Second Life, il n'a de valeur qu'à l'intérieur de Second Life, il n'en a pas en dehors. Donc il n'est pas échangeable, en fait, en dehors du système. Voilà. Enfin, on a une autre question, c'est est-ce que la propriété matérielle s'étend jusqu'au virtuel? Alors, on a eu ce débat déjà, parce qu'en droit, la plupart des débats ont déjà existé. C'était un débat sur les gens qui possèdent un champ et qui en ont marre d'avoir des avions qui passent au-dessus d'eux. Et qui disent « Mais je suis propriétaire du champ, jusqu'au ciel !» Donc l'avion ne doit pas passer chez moi. La justice a tranché, il y a eu des procès. La justice a dit « On ne peut pas bloquer l'innovation. » Donc là, c'est une revendication abusive, on ne peut pas le faire. En revanche, par en dessous, ça marche. Si vous avez un champ et que dessous, il y a du pétrole, vous êtes bon pour polluer la planète. Autre problème juridique, c'est que quand on est sur Pokémon Go, on a des photos des Pokéstop. Là, on a une photo qui est prise à Clichy et qui nous dit que le Pokéstop est encore trop loin de nous. Mais bon, or nous n'avons pas le droit. La loi numérique a été adoptée hier, votée au printemps dernier, mais adopté hier par l'accord du Sénat et de l'Assemblée, interdit le droit de panorama. Ou plutôt, dans sa grande subtilité juridique, autorise de prendre des images des lieux publics, qu'en général, donc des lieux qui ont été financés par la puissance publique, donc par nos impôts, interdit de prendre en photo des lieux publics et de s'en servir à but commercial. Donc, ça sera un problème si vous prenez en photo un monument, l'église Saint-Pierre à Caen, et que vous le mettez sur Wikimedia Commons. Pourquoi? Parce que la licence de Wikimedia Commons dit « Mais je m'en moque si des gens prennent des choses et s'en servent en commercial. Ça ne change pas l'existence de Wikimedia Commons. De toute façon, ça sera marginal. » Donc, leur licence autorise le commercial. Donc, d'après la loi française, vous n'avez pas le droit de prendre une photo d'un lieu public et de la mettre sur Wikipédia. Est-ce que, quand vous êtes dans un blog, vous êtes dans le non commercial. La plupart du temps, les blogs des grandes entreprises, sauf si vous gérez vous-même votre blog, mais les autres, la plupart du temps, il y a de la publicité. Et donc, vous êtes dans un lieu commercial. Donc, vous ne devriez pas avoir le droit de prendre des panoramas, c'est-à-dire des choses qui existent autour de vous, font partie de votre espace public. Vous voyez, souvent, cette grande générosité des gens qui disent « Oh là là, moi, je veux bien vous autoriser tout ce que vous voulez quand vous êtes en mode non commercial », c'est la plupart du temps des gens qui ne connaissent rien à l'Internet. C'est très compliqué, le non commercial, sur l'Internet. Il y a du commerce partout. Il y a du commerce et du don. Il y a du commerce et du commun. Mais il n'y a pas cette logique de non marchand, de non commercial, de choses comme ça. On est toujours dans un entre-deux. Alors, on a commencé, pour pouvoir s'en servir, il faut bien avoir acheté un serveur, donc le financer. Voilà. Mais bon, quand vous êtes gros, avec 130 millions de téléchargements en un mois, la loi française, vous pouvez vous asseoir dessus. Alors après, l'autre chose qu'on peut tirer de l'analyse de Pokémon Go, c'est quelque chose autour des comportements. Qu'est-ce que c'est les comportements ? Alors, ça a été anticipé, toujours dans les conditions de service. On vous dit que vous vous engagez, conjointement à votre utilisation, à ne pas infliger de détresse émotionnelle à d'autres personnes, ni humilier d'autres personnes, publiquement ou autrement, ni menacer, ni agresser, ni entrer sur une propriété privée, ni usurper l'identité d'une autre personne, etc. etc. Donc on voit bien que les gens sont conscients que quand vous avez une foule comme celle qu'on a vue tout à l'heure se déplacer pour attraper un Pokémon, ils sont souvent inconscients des réalités du monde qui les entoure et ils vont pouvoir avoir des tas d'activités, prendre le Pokémon à la place d'un autre, se moquer de celui qui n'a pas réussi à l'attraper parce qu'il n'est pas très doué au lancer de Pokéball, etc. etc. Donc on est dans une situation où effectivement on a des individus qui sont dans l'espace public mais qui se comportent, puisqu'ils sont avec leur téléphone, comme dans un espace privé. Donc là aussi, ce mélange de la relation à l'autre dans l'espace public comme dans l'espace privé. Or, l'idée de Anke, c'était justement de créer un jeu qui permette aux gens de se rencontrer et permette aux gens d'aller ensemble chasser le Pokémon, de sortir dans la ville, de marcher, de bouger, d'arrêter de dire les gens sont des coches potatoes écrasés dans leur sofa et juste devant leur écran. De ce point de vue-là, c'est pas mal réussi. Mais il y a en même temps donc ces limites. Ces limites qui sont utilisées et exploitées par les faiseurs de peur. Ce dont je vous ai parlé, je crois que c'est dans le cours précédent, la notion de panique morale. Cette idée qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe sur Internet, il y a des gens qui vont vous expliquer que c'est de la mise en danger des enfants. Systématique, les pédophiles peuvent se servir de tout ce qu'il y a sur Internet. Pas de ce qu'il y a dans le monde réel, pas des églises, des écoles ou des choses comme ça. Non, non. C'est Internet qui est le grand danger pour les enfants. Bon, il y a bien un danger pour les enfants. Il y a une étude qui a été publiée dans une revue scientifique qui s'appelle Current Opinion in Pediatrics, faite par des pédiatres, qui fait une étude de quels sont les risques et avantages, pas risque uniquement, les risques et avantages de Pokémon Go. Et ils disent que tout ce qu'ils ont étudié montre qu'il y a des avantages parce que les enfants vont bouger, parce qu'ils vont socialiser, parce qu'ils vont avoir une activité hors de chez eux. Et ça, particulièrement aux États-Unis, c'est encore plus important que chez nous. Mais enfin, il y a des effets négatifs qui sont le risque de se blesser, le risque de passer à des endroits où on n'a pas le droit de passer, la violence et le coût. Ils ne mentionnent pas, parce qu'il n'y a eu aucun exemple concret, de pédophiles qui se déguisent en Pokémon pour attirer les petits-enfants. Voilà. Donc, ce n'est pas arrivé, ça. Et voyez à nouveau cette espèce de mélange en permanence sur ce qu'on appelle vraiment les paniques morales, c'est-à-dire créer la notion de peur avant même que les événements existent. Il pourrait, si vous regardez les titres de ces journaux, est-ce que l'on peut exploiter Pokémon Go ? C'est presque comme si les pervers des médias étaient plus pervers que les pervers eux-mêmes, parce qu'ils étaient capables d'imaginer à leur place ce qui pourrait arriver si. Et il faut qu'on réfléchisse quand même à cette attitude des médias, globalement, hein, qui nous apporte aujourd'hui peut-être les... Bon, écoutez, quand vous avez un bullshitter comme Trump qui est capable de se retrouver candidat à la présidence du plus grand pays du monde, du plus puissant, il y a bien quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Et donc, comment, en fait, cette capacité à mettre des conditionnels, cette capacité à dire absolument n'importe quoi, sans preuve, sans relation avec le monde réel, typiquement ce que fait Donald Trump. Je ne parle pas des Français parce que je suis en France, donc je ne voudrais pas me mêler, mais quand même, il faut bien regarder. Donc on appelle ça le bullshitisme. Attendez, voilà, c'est même pas un menteur. Un menteur sait la vérité, mais ne la dit pas. Là, on est dans autre chose. On est dans « je peux dire absolument n'importe quoi ». Il suffit que je mette les bons conditionnels au bon endroit. Il y a un vrai problème aujourd'hui de cette économie de l'attention, c'est-à-dire cette capacité des médias à dire n'importe quoi juste parce que ça fait de l'audience. Et donc à promouvoir les gens qui se prétendent capables de diriger le monde en ne connaissant rien et en disant n'importe quoi, juste parce que ça fait de l'audience, parce qu'ils sont, bah, allez, ils sont sans gêne et sans vergogne. Donc je ne parle pas de Zemmour, hein, vous aviez compris. D'accord, donc sans gêne et sans vergogne, voilà où ça nous mène. Peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse un peu à comment l'Internet, avec sa capacité justement d'avoir des vraies données, d'avoir des vraies informations, d'avoir des vrais raisonnements, d'avoir des vraies interactions entre personnes qui pensent, comment l'Internet va pouvoir nous sauver de cette espèce de dictature du bullshit. Alors après, un autre aspect intéressant qu'on peut regarder dans Pokémon Go, tu as vu qu'au travers de Pokémon Go, quand même, c'est juste un petit jeu. On peut dérouler toute une série de choses sur l'Internet, son activité économique, les comportements sociaux, l'analyse de la communication et des médias, les questions de la vente et du succès auprès de la bourse, enfin, la création d'entreprises et de start-up. On déroule, hein, et on le fait là-dessus sur Pokémon Go. L'année dernière, je l'avais fait sur l'affaire Volkswagen. Pareil, on prend une affaire et on tire la bobine. Et on s'aperçoit que Internet, il y a des formes de raisonnement qui restent toujours les mêmes. C'est pour ça que je dis la culture numérique, c'est important, parce que ça nous permet d'aborder tous les aspects, le social, l'économique, le politique, le géopolitique, le culturel, autour à peu près de chaque exemple. Et comme vous avez des notes de synthèse à faire, l'exemple que vous avez en sujet devrait vous permettre, a priori, de tirer la bobine sur l'ensemble de ces questions culturelles, géopolitiques, politiques, économique et sociale. Alors là, on peut s'apercevoir d'une chose, c'est l'espèce d'inégalité spatiale qui existe. Là, on a les points des Pokéstop qui sont à Paris. Et vous remarquerez qu'ils sont presque tous en centre-ville, qu'ils sont presque tous dans les quartiers riches, et qu'il y en a très très peu en banlieue. C'est encore pire si on regarde la même carte, mais rapportée au nombre d'habitants. Dans le centre-ville de Paris, où il y a peu d'habitants, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de points d'intérêt, alors que dans les banlieues où il y a plein d'habitants, on ne trouve pas de Pokéstop. Alors pourquoi ? Ce n'est pas volontaire. La première règle, c'est de comprendre qu'il n'y a pas une volonté de ségrégation. Il y a une conséquence de la ségrégation. Et on va retrouver ça dans plein d'activités sur l'Internet, où on va s'apercevoir que Internet reproduit à l'intérieur de tous les services Internet, des ségrégations, des questions de race, des questions de genre, qui existent à l'extérieur de l'Internet, qui existent dans le monde réel et qui sont reproduites, voire soit renforcées, soit tout simplement mises, effet Dracula, mises en lumière. Les lieux d'intérêt viennent de la base de données du jeu auparavant qui s'appelait Ingress. Et dans ce jeu-là, il était plutôt question d'avoir des musées, des églises, enfin des monuments. Donc, on ne met pas un Pokéstop n'importe où, on met un Pokéstop à l'endroit qui est déjà dans la base de données où il y a des monuments. Effet, si vous avez déjà de l'information quelque part sur quelque chose, eh ben on rajoutera encore plus d'informations à cet endroit-là plutôt que de combler les trous à côté. Donc ça, c'est là aussi un effet très important de l'Internet, c'est-à-dire winner take all, celui qui est déjà un lieu plein d'informations va devenir un lieu encore plus plein d'informations. Dernière chose pour tirer la bobine de Pokémon Go, c'est la question de la carte. Alors, on renvoie à ce texte de Jorge Luis Borges, qui date de 1946, hein, donc a été très souvent cité par des philosophes et tout ça. Donc, c'est en cet empire, l'art de la cartographie fut poussé à une telle perfection que la carte d'une seule province occupait une ville, puis une carte de l'empire, toute une province. Avec le temps, ces cartes deviennent à l'échelle 1, c'est-à-dire la carte représente exactement le territoire. Sauf que quand on pose la carte sur le territoire, bien évidemment, on ne voit plus le territoire et donc les gens se plaignent. Ça ne peut pas marcher. Alors, cette idée donc, de la carte à l'échelle 1, l'idée que la carte et le territoire vont être à la même dimension, elle existait auparavant. Hein, donc il y a pareil mon collègue Gilles Palski, qui est un géographe, qui a montré qu'en fait, cette idée de la carte à l'échelle 1, pour laquelle on cite souvent Jorge Luis Borges, en fait, elle a été déjà présente dans ce petit texte qui est très très fun de Lewis Carroll, hein, qui était mathématicien et qui est un visiteur, c'est dans Sylvie et Bruno, et qui lui dit « Mais quelle est la meilleure dimension pour une carte ?» Ben, en fait, la meilleure dimension, c'est le monde réel, c'est la dimension exacte. Et le problème, c'est est-ce que vous avez réussi à étendre cette carte à la dimension exacte? Ah ben non, parce que les paysans ont peur que ça leur cache le soleil. Alors Umberto Eco a beaucoup joué avec cette logique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la carte à l'échelle 1 existe? Avec Internet, nous avons la carte à l'échelle 1. Je dirais même que nous avons peut-être la carte à l'échelle 2:1. C'est-à-dire qu'il peut y avoir deux fois plus d'informations sur chaque point géographique que la dimension de ce point géographique. Et donc là, on est quand même dans quelque chose de radicalement nouveau. Si par exemple, on n'a plus une carte qui est seulement conforme au monde réel, mais on va au-delà. Exemple, cette carte ici est une carte des embouteillages à Paris en temps réel, sur Google Maps. Et donc là, on a rajouté, non seulement on a une description d'un endroit précis, mais sur ces endroits précis, on en tire des conclusions qui sont la logique des embouteillages, et elle est en temps réel, c'est-à-dire elle va être évolutive avec la réalité de ce qui se passe dans le monde. D'accord, on a une carte qui est beaucoup plus qu'à l'échelle 1. Hein? On peut avoir des tas d'imaginations comme ça, par exemple, on peut avoir du géocoding d'œuvres littéraires ou de citations littéraires, qui fait que quand on est devant une maison quelconque, en Normandie, on va avoir la description de cette maison par Proust, ou par Maupassant, ou etc., etc. C'est-à-dire on va pouvoir prendre des citations d'auteurs pour représenter des lieux réels étant en relation. Donc, vous voyez, on a plus que la carte elle-même, on a plus que le fait de savoir là où on est, on a des compléments d'information. On peut avoir un historique des températures à un endroit donné. Vous voyez, on a plein d'informations sur un point. On peut avoir la reconstitution de ruines. Ce que je disais tout à l'heure, vous avez une réalité virtuelle qui, falaise, vous allez voir les ruines du château et en fait, avec la tablette qui vous permet de la visiter, vous allez pouvoir revoir le château comme s'il existait vraiment ici et maintenant. Donc, vous voyez bien que la carte, le lieu géographique, est devenu sur Internet quelque chose qui a une puissance inégalée. Parce qu'en fait, faire de la géographie sur Internet, tôt ou tard, ça revient à dire, pour tel lieu de coordonnées géographiques, voilà l'information que je peux ajouter dessus. C'est une route, c'est un champ, c'est un bois, c'est un immeuble de 4 étages, c'est à côté un immeuble de 5 étages, c'est un monument, enfin, pour rajouter l'information. Et ça va nous donner un grand enjeu de la cartographie sur Internet. Qui va avoir le pouvoir sur les cartes? C'est-à-dire qui va être capable de capter le maximum d'informations sur chaque lieu géographique et d'en donner une représentation fluide, efficace, pratique, etc. etc. Alors, pourquoi c'est un enjeu économique essentiel? Vous entendez parler jour après jour, surtout là, c'est le salon de l'auto, de la voiture autonome. La voiture autonome, elle a absolument besoin d'une carte, je dirais même d'une carte mise à jour en temps réel et excessivement précise, qui va nous indiquer, y compris les nids de poules, les cassis, tous ces éléments qui nous permettent de conduire une voiture ou de faire conduire une voiture par une intelligence artificielle. Pour l'instant, Google est en tête là-dessus. Mais les grands constructeurs sont en train de construire une logique de carte alternative. Les Mercedes, Honda, etc. ont fait un consortium pour avoir, eux aussi, leur modèle de carte qui ne les fera pas dépendre de Google. Aujourd'hui, vous invitez des amis ou vous faites un plan de l'université de Caen et vous voulez préciser les choses, 99 chances sur 100 que vous utilisiez une Google Map. C'est-à-dire, quelque part, la capacité de Google à savoir qui vient, quand est-ce qu'il est venu, pourquoi il est venu, où va-t-il, qu'est-ce qui l'intéresse, enfin, vous voyez, toute cette histoire de captation des données. Pourtant, il existe une carte libre, c'est-à-dire une carte faite par des individus indépendants, qui s'appelle OpenStreetMap, hein, dont j'ai la page d'accueil ici, et là, c'est une carte qui est évolutive parce que les gens vont renseigner de l'information en permanence. On me dirait, sur Google, avec quoi, c'est pareil, on informe sur les bouchons. Là, c'est bien plus que ça. Par exemple, des campagnes qu'on appelle des cartoparties, où des gens se réunissent, ils vont dans une rue et ils disent, ben, sur la carte, je vais rajouter la hauteur des immeubles. Ou sur la carte, je vais rajouter la présence des défibrillateurs. Donc, tout de suite dans la ville, hop, où sont les défibrillateurs? Ou sur la carte, je vais rajouter, ça c'est un problème typique des anglo-saxons, les lieux où on peut allaiter sans être enquiquiné, sans qu'on vous chasse, etc. Parce que dans ces pays-là, on ne montre pas la nudité, mais c'est comme chez Facebook. Et donc, voilà, allaiter les enfants, c'est complètement impudique. Raconter des sornettes comme Trump, ça, c'est même pas considéré comme la pornographie. Par contre, allaiter un enfant, là, faut pas exagérer. Donc voilà, on fait des cartoparties et ça a des succès. Par exemple, les pompiers du Nord préfèrent se fier maintenant à OpenStreetMap qu'à Google Maps parce qu'ils ont eu justement des cartoparties qui ont été faites spécialement pour tous les défibrillateurs, tous les points d'accès à l'eau en cas d'incendie et qu'eux-mêmes, comme pompiers, peuvent maintenir et modifier en permanence les informations géographiques sur cette carte. Donc c'est ce qu'on appelle un commun. Cette carte est un commun. Donc vous voyez, on a un enjeu économique entre les grands puissants, entre Google, entre les constructeurs automobiles, et puis on a un enjeu de société avec est-ce que cette carte à l'échelle 2 sur 1 que nous pouvons construire avec Internet, est-ce qu'elle appartiendra à toute la société, à tous ceux qui veulent bien, comme pour Wikipédia, donner un peu de leur temps pour enrichir les données cartographiques et faire qu'on puisse ensuite s'en servir. Voilà ce que j'avais à dire sur à partir de Pokémon Go. Vous avez peut-être des questions? Non? Vous avez peut-être envie de faire la pause? Oui. 5 minutes.